sera uniquement en montagne, on ne voit pas le retour du froid.
Merci beaucoup Christine, et à tout à l'heure, bienvenue à tous, il est 5h.
France Info, petit matin, Marine Clette, Claire Brigalamar.
Bonjour William Guécosta.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, l'urgence à Mayotte.
Un pont aérien est mis en place pour acheminer des vivres sur l'archipel dévasté par l'ouragan Chido, avec un bilan qui s'annonce extrêmement lourd dans le 101e département français le plus pauvre. Dans l'actualité également ce matin, le Premier ministre François Bayrou qui entame des consultations avec les forces politiques alors qu'il forme son gouvernement. Perrier, c'est une information France Info, à nouveau pointé du doigt pour la qualité de son eau. Et puis Paris qui conforte sa place de leader de la Ligue 1 de foot.
Dans bientôt chez vous, ce matin, Marine.
Nous allons nous promener dans les rayons des supermarchés au Japon où les clients sont priés d'apporter en magasin leurs huiles de cuisson usagées. Elles sont utilisées comme carburant pour faire voler les avions.
Nous serons en direct de Tokyo tout à l'heure avant 5h30.
Plusieurs centaines de morts redoutées et peut-être même quelques milliers. Ce sont les mots très inquiétants du préfet de Mayotte après le passage du cyclone tropical Chido ce week-end, avec des images très impressionnantes de désolation, notamment dans ces quartiers de fortune, ces bidonvilles rasées par les vents. Sonia, elle habite Pamandzi sur l'île de Petite Terre qui n'a plus d'eau ni d'électricité.
Depuis 48 heures que la tempête est passée, les choses se sont calmées. Là, il va pleuvoir aujourd'hui. Je sais pas trop comment ça va se passer. Après, on trie les tôles, on élague les arbres qui ont été coupés, on dégage les rues. Ça c'est fait. Du coup, on peut recommencer à circuler. Mais on n'a toujours pas de téléphone, on n'a toujours pas d'électricité, on n'a toujours pas d'eau. C'est pas prêt de revenir. À part du riz, il reste pas grand-chose parce que les frigos, là, ça fait 48 heures, les frigos sont tout ce qui était dedans est bon. Là, le risque, c'est que les gens qui n'ont plus rien aillent se servir et chercher ce dont ils ont besoin dans les maisons et rentrer.
Pour éviter le manque de nourriture, pour éviter les pillages, un pont aérien a donc été mis en place. Des avions décollent de l'Hexagone. Ils transitent par l'île de la Réunion voisine. Son préfet, Patrice Latron.
Ce que vous avez vu arriver là, avec cet A400M qui arrive directement de métropole, c'est le début d'un pont aérien qui va se poursuivre dans les jours qui viennent. Donc il y a un double pont entre la métropole et la Réunion, et entre la Réunion et Mayotte. Et ici, la Réunion va être une sorte de hub pour transférer les matériels et les personnels des vols commerciaux, les mettre sur ce genre de vol tactique et les envoyer avec des renforts et des matériels et de l'alimentation provenant aussi de la Réunion. On est par exemple en contact avec l'ensemble des distributeurs alimentaires pour charger des conteneurs qui seront embarqués dès cette semaine, des conteneurs d'alimentation et d'eau, au départ de la Réunion, donc des produits présents actuellement à la Réunion qui arriveront en fin de semaine à Mayotte.
Le préfet de l'île de la Réunion, Patrice Latron, a noté que le ministre des missionnaires de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu ce matin à Mayotte.
En France Info, il est 5h03. François Bayrou consulte.
Et le nouveau Premier ministre, en train de former son gouvernement, reçoit à Matignon les groupes parlementaires. Il commencera à 9h par la présidente du groupe des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, alors qu'à l'Assemblée, dans l'hémicycle, arrive le projet de loi spéciale. Il est examiné dès cet après-midi. Après la censure du gouvernement Barnier, ce texte est censé pallier l'absence de budget voté par le Parlement. Le texte doit permettre à l'État d'engager les crédits sur la base du dernier budget, celui de 2024, d'emprunter et de lever l'impôt. Ce texte de loi a été adopté en commission la semaine dernière, Édouard Marguier, mais il y a désormais un débat sur un amendement pour indexer l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Édouard, c'est technique, mais l'enjeu est très important pour des millions de Français.
17 millions de contribuables risquent de payer plus d'impôts sur le revenu. 380 000 autres pourraient se retrouver imposables l'an prochain. La revalorisation du barème de cet impôt en fonction de l'inflation est quasi automatique dans les projets de budget de l'État. Mais comme son nom l'indique, pour une loi spéciale, c'est différent. Elle doit reconduire les impôts existants et c'est tout, a rappelé le Conseil d'État. Mais cela n'a pas empêché le député insoumis Éric Coquerel de déposer son amendement, soutenu par le nouveau Front populaire. Au nom de la justice fiscale, abonde le patron du PS Olivier Faure. Le RN y est également favorable, soucieux de prouver son argument. La censure de Michel Barnier sera sans conséquence pour les Français, avait dit le parti d'extrême droite. Le président du Sénat, le LR, Gérard Larcher, affirme que cette loi spéciale doit être votée, mais en respectant la Constitution. Son homologue de l'Assemblée nationale, la macroniste Yaël Braun-Pivet, peut retoquer l'amendement en séance publique. Elle compte se prononcer en droit. Réponse tout à l'heure.
Les précisions d'Edouard Marguier.
Une partie des diplomates russes en poste à Damas, en Syrie, évacués.
Oui, hier par avion, alors que Moscou a pendant des années soutenu militairement le régime de Bachar al-Assad, renversé il y a une dizaine de jours par les rebelles islamistes. En revanche, plusieurs pays occidentaux sont en train de prendre contact avec le nouveau pouvoir, celui du HTS. Les États-Unis et le Royaume-Uni ce week-end. Une délégation française, la première en 12 ans, sera elle demain à Damas. À quoi donc faut-il s'attendre désormais de ce nouveau régime? Beaucoup sont inquiets, vu le passé des rebelles issus des sphères djihadistes. Marie-Pierre Véraud, vous êtes allée à Idlib, dans le nord de la Syrie, dirigée depuis maintenant 7 ans par le HTS.
La bannière du HTS flotte à l'entrée d'Idlib. Abdul Hamid, propriétaire d'un magasin, nous guide dans les rues encombrées et bruyantes du fief des nouveaux maîtres de Damas.
Regardez la vie à Idlib.
Une vitrine en un sens. La ville déborde d'activité. Seuls quelques vestiges des bombardements de la semaine dernière témoignent de la guerre, mais on s'affaire déjà à les effacer. Côté service public, pas de doute, Idlib est un modèle pour la Syrie. Abdul Hamid se réjouit.
Ici, nous avons de l'électricité 24 heures sur 24, alors que dans le reste de la Syrie, c'est seulement 2 heures par jour, que ce soit dans les zones côtières ou à Damas.
Cela fait sourire Mohamed Al-Asmar au ministère de l'Information d'Idlib.
À Damas, nos équipes souffrent pour avoir Internet, alors que c'est la capitale. Mais ici, à Idlib, quelle que soit la rue, vous avez Internet. Mais l'une des grandes réussites de ce gouvernement, c'est la sécurité. Nous sommes débarrassés des vestiges de Daesh qui étaient encore dans cette région.
Les femmes disent apprécier de se promener sans risque. Toutes sont voilées, beaucoup portent le niqab, mais c'est la tradition ici. Le HTS n'impose aucune tenue. Il a toutefois mis en place un conseil de la Choura qui contrôle le gouvernement. Son représentant reconnaît que l'exemple d'Idlib n'est pas transposable à la Syrie bien plus diverse. Mais sa feuille de route, reconstruction, respect de l'islam, sécurité, laisse imaginer ses priorités. L'éducation n'en fait pas partie.
France Info, reportage de Marie-Pierre Véraud et Jérémy Thuil en Syrie. C'est une information Radio France sur la marque d'eau naturelle Perrier pour le groupe Nestlé à qui elle appartient. Un rapport confidentiel dévoilé ce matin par la cellule Investigation de Radio France et le journal Le Monde montre que la qualité des eaux d'une usine Perrier dans le Gard est préoccupante et pour la première fois, Marie Dupin, un arrêt de la production d'eau minérale sur ce site est envisagé.
Et oui, dans ce rapport, l'Agence régionale de santé d'Occitanie estime que les eaux brutes exploitées par Nestlé dans son usine Perrier à Vergès sont toujours ponctuellement contaminées par des bactéries, notamment des germes fécaux qui peuvent être dangereux pour l'homme, ce qui est, selon le rapport, inacceptable pour une eau minérale naturelle. Le document s'alarme aussi du maintien dans l'usine de filtres non réglementaires, normalement interdits pour la production d'eau minérale naturelle. Selon l'Agence régionale de santé, ces filtres ne sont pas efficaces pour retenir les virus, ce qui pose un problème sanitaire. D'après nos informations, plusieurs administrations avaient averti les ministres dès 2022 de ce risque viral, mais le gouvernement avait quand même permis à Nestlé d'utiliser ces filtres non conformes. Désormais, les autorités envisagent un arrêt de la production d'eau minérale naturelle Perrier. Elles invitent Nestlé poliment mais fermement à s'interroger sur un autre usage de ces puits dans des conditions qui apporteraient des garanties de sécurité sanitaire indispensables.
Et Nestlé contacté par Radio France et le journal Le Monde n'était pas en mesure de répondre.
France Info, 5h08 en Ligue 1 de football. Paris reprend de l'avance.
Au classement général, avec sa victoire hier soir 3-1 en clôture de la 15e journée contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain qui devance donc de 7 points ses dauphins Marseille et Monaco, les Parisiens et les Monégasques qui se retrouvent d'ailleurs dès mercredi en match avancé de la 16e journée. Et puis Claire, si on prenait le Zug, pour faire Paris-Berlin, le train en allemand, en Paris-Berlin en 8 heures, c'est possible. Dès aujourd'hui, ouverture de la liaison en TGV entre les deux capitales, la capitale française et la capitale allemande. Bravo, vous suivez. Un train quotidien au départ de la gare de l'Est, inauguré
Paris-Berlin.
En grande pompe. C'est bon ? Aujourd'hui, ouais, avec des arrêts marqués à Strasbourg, Francfort et Karlsruhe. Donc, vous pouvez le prendre pour faire un petit week-end à Karlsruhe si ça vous tente.
Mais allez-y, et puis vous nous raconterez votre week-end.
Ouais, je vous envoie une carte postale.
Merci beaucoup. Bon baiser de Karlsruhe. Allez, à tout à l'heure, William. On va retrouver Christine pour notre météo avec une France. Aujourd'hui, c'est coupé en deux. Nord-Sud.
Oui, Nord-Sud, exactement. Avec la grisaille qui se maintient au nord. Alors, quelques trouées de soleil, de ciel bleu de temps en temps. Mais les nuages bas devraient se maintenir. Et puis au sud, le soleil réapparaît. Ce matin, il fait plus froid d'ailleurs au sud qu'au nord. On a 2 degrés à peine à Bordeaux contre 11 à Lille.
Merci beaucoup Christine, vous revenez dans 20 minutes. L'aide humanitaire, elle doit arriver en urgence absolue à Mayotte, où la population n'a parfois plus à boire ni à manger. Le directeur des urgences de la Croix-Rouge avec nous dans un instant.
Et puis autre actualité aujourd'hui, François Bayrou, le nouveau Premier ministre qui consulte en vue de son futur gouvernement.
Il est 5h10.
Chaque mois, vous êtes plus de 22 millions à vous informer sur franceinfo.fr et sur l'appli France Info.
France Info, première plateforme d'actualité au quotidien.
Source Médiamétrie Net Ratings.
France Info, petit matin, Marine Clette, Claire Brigué-Lamar.
À plusieurs centaines de morts et même peut-être quelques milliers selon le préfet de Mayotte. Le bilan humain qui s'annonce donc extrêmement lourd après le passage du cyclone Chido qui a dévasté la majeure partie de l'archipel. Les secours ont commencé à arriver sur place, renforcés par un pont aérien. Il va falloir aller...
Belle chose au moment de Noël. Quelle est votre dernière bonne action? Moi, j'ai donné des boules de Noël à l'école primaire de mes enfants pour qu'ils puissent décorer le sapin à l'école. Ils me les ont rendus parce qu'il n'y avait pas la ficelle. Alors que non mais c'est
les
vrai.
Trucs cassés, tu sais.
Non mais c'est pas c'est elles étaient pas cassées.
Vexant.
Bah oui, je leur donne des boules, ils en veulent pas parce qu'il y a pas la ficelle alors qu'ils mettaient un bout de ficelle à rôti.
Oui, ben
non,
voilà.
Mais moi, il y a des boules des fois qui me manquent, enfin il me manque la ficelle, je prends de la ficelle à rôti. Bon ça se voit pas.
Tu m'as dit les mots. Maman, il y a un mot dans le cahier. Fais voir, qu'est-ce que t'as fait encore? Madame, est-ce que vous pouvez venir récupérer vos merdes? Ça sent le rose bif dans toute l'école. Quelle est votre dernière bonne action? Déjà, bravo, parce que vous nous avez décrit tout ce que vous faites au quotidien. Et bravo, et les Français sont généreux.
Exactement, comme Lydie, justement, qui dit « J'ai sauvé une petite souris attaquée par un chat. » Déjà, va l'attraper, la souris, quand même.
Non, non, mais bon, si le chat, il a faim, je veux dire, non. C'est comme... Non, mais il faut le laisser.
C'est son instinct de chasseur.
Hein. Non, puis il rapporte ça toujours comme un trophée. Ça me rappelle, moi, une fois, j'ai dormi chez des amis. En guise de trophée, au bout du lit, j'avais une tête de souris que le chat avait été attrapé. Je peux te dire, tu te lèves le matin, t'as ça au bout du lit.
C'est une expérience.
Ouais, c'est vraiment une expérience.
Il faut laisser les chats manger les souris, hein, parce qu'après les souris, bon, c'est pas super.
Non, il n'y a plus Tom et Jerry. Hein. Alors.
Tu vois, dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est on se barre tous du studio.
La laisser.
On laisse un blanc comme ça, tu sais. Au milieu de Notre-Dame avec toutes les caméras.
La dernière bonne action de Jean-Marc, c'est il dit j'ai vidé le lave-vaisselle.
Ben oui, c'est une bonne action. Ah, mais si, c'est une bonne action. Il y a une phrase que les lave-vaisselles entendent tous, toutes les marques. Mmh. Le lave-vaisselle est vivant. Hein.
Ouais.
Il entend cette phrase. Ça tombe toujours sur moi.
Ouais. Moi, je fais un truc maintenant. Moi, je le lance avant de partir le matin au boulot.
Comme ça
que tout le monde se réveille. Et ben, ils sont obligés de vider
le lave-vaisselle.
Ils le vident.
Ah, parce que quand tu rentres le midi et qu'il n'est pas vidé, moi, ça parle en allemand. Hein. Il y a des gros mots d'un autre temps, je vous le dis. Hein.
Quelle est votre dernière bonne action? Il y a Jules Warne qui nous dit prendre la main d'une enfant de 3 ans pour traverser la route car sa maman avait les bras chargés.
Et sa maman, c'était ma femme. Elle portait les sacs de ciment.
Philippe et Sandy arrivent dès 6h
en direct sur Nostalgie.
No news. I just call to say how much I care.
Nostalgie.
Un très bon réveil dans toute la France. Je sais, c'est un petit peu compliqué ce matin. C'est lundi en même temps. Lundi 16 décembre, 351e jour de l'année. Bonne fête à Alice. Bon anniversaire à Benny Anderson, l'un des deux B du groupe ABBA qu'on écoutera justement avant 6h. Anniversaire aussi de Billy Gibbons, guitariste, chanteur de ZZ Top. Et puis c'est l'anniversaire de Liane Folly, qui a si bien repris Daniel Balavoine. On va partir en musique avec Michael Jackson, Laurent Voulzy, Luna Parker et bien sûr l'horoscope de Sandy juste avant la nuit. C'est la tradition du matin sur Nostalgie. Bon réveil.
Sur Nostalgie,
de grands artistes pour de grandes fêtes.
Bonjour, c'est Phil Collins.
Bonjour, c'est Laurent Voulzy.
Bonjour, c'est Jeanne Masse sur Nostalgie.
Bonjour, c'est Alain Souchon.
Salut, c'est Elton John.
Bonjour, c'est Julien Clerc. Bonne fête avec Nostalgie.
Bonne musique. Nostalgie. Bonne humeur.
Et des fêtes au top avec Nostalgie.
Les plus grands tubes.
Nostalgie, les plus grands tubes.
beaucoup de musique, hein, c'est très important pour bien démarrer la semaine avec Nostalgie. Lundi 16 décembre, c'est l'anniversaire d'Eric à Marseille. Bon anniversaire à vous Eric, vous êtes Sagittaire. On va savoir comment sera votre journée avec l'horoscope de Sandy qui démarre bien sûr, comme chaque matin, avec les Béliers.
Un contact sérieux et positif est dans l'air en affaires. C'est en posant une question astucieuse que vous dénichez un bon plan. Taureau, vos économies sont en position fragile. Soyez plus attentifs dans les jours qui viennent. Gémeaux, votre sens de l'humour fait recette au travail si un changement s'amorce. Analysez tout et ne zappez rien. Les cancers, vous avez besoin de faire le point, de vous détendre aussi. En amour, la tendresse favorise un rapprochement stratégique. Lion, une affaire intéressante est relancée. Au travail, vos conseils sont suivis. En amour, affirmez-vous davantage. Les vierges, le stress monte d'un cran. Au travail, restez lucide sur ce qui se joue. En famille, les fêtes se préparent activement. Balance, vous avancez avec élégance sur une question délicate. Vous mettez toutes les chances de votre côté. Les scorpions, vous avez de bonnes idées, mais pas forcément les moyens de les mettre en œuvre immédiatement. Soyez patient. Les sagittaires, voyez ce qui est le plus urgent. Ne vous laissez pas entraîner au-delà de vos possibilités actuelles.
Noël ce week-end. Bon, certains ont encore un peu de retard. J'étais dans ce cas-là. Mais ensuite... Un autre défi nous attend, emballer les cadeaux sans se ruiner.
Eh bien oui, si vous êtes adepte des traditionnels rouleaux de papier cadeau, attention au petit prix. D'abord, regardez bien la quantité que vous achetez, hein, comparez le prix au mètre. Et puis attention aussi à la qualité, parce qu'avec les premiers prix, bah, vous risquez d'avoir du papier très fin qui va se déchirer très facilement. Et si vous êtes comme moi, pas très doué, bah, vous risquez pas mal de gaspillage.
Donc... Alors... Ouais, vas-y.
Ouais, mais c'est quand même dommage en plus d'acheter du papier juste pour qu'il soit déchiré. 20 000 tonnes de papier qui partent à la poubelle entre le 24 et le 25 décembre.
T'es en train de me dire que, parce que moi je fais ça tous les ans, d'emballer avec du papier cadeau traditionnel, c'est une mauvaise idée.
Mais tu ça coûte cher.
Mais t'emballes comment tes cadeaux ?
Eh ben, il y a plein de solutions. Je suis sûre que t'as tout ce qu'il faut chez toi. La récup, bah, c'est à la mode. Et ça, ça coûte absolument rien. Tiens, regarde, moi, je t'ai fait un joli paquet avec une belle panthère.
C'est super joli, tu vois. Je suis content d'avoir mon cadeau dès ce matin.
Donc, c'est une, c'est un paquet avec juste du papier journal. Tu prends une jolie photo. Tu peux prendre la page des jeux aussi. Hein, si le réveillon est un petit peu ennuyeux, ça peut aider.
C'est vraiment un cadeau pour moi ou pas ?
Tu peux, mais ça va pas t'intéresser.
C'était pas prévu pour, c'est ça. Je peux l'ouvrir ou pas ?
Tu peux l'ouvrir si tu veux. Évite les articles sur la politique parce que ça pourrait créer des tensions.
Tu
peux utiliser du papier craft aussi. C'est le papier marron ou des sacs en papier donnés dans les supermarchés pour que ce soit un peu plus joli. Bah, tu fais décorer ça par tes enfants. En plus, ça va les amuser.
Je peux raconter. C'est un essai écologique pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective, de Camille Etienne. Bon. Voilà. J'ai bien compris le message, Géraldine. J'ai compris, j'arrête de gaspiller et tout ça. J'ai bien compris.
Et sinon,
l'emballage était magnifique.
Tu vois, l'emballage était chouette. Et sinon, tu peux utiliser du tissu. Alors, celui-là, tu ne l'ouvres pas parce que c'est un vrai cadeau, c'est pour ma maman. J'ai pris un t-shirt qui était trop petit. Tu as forcément quelque chose chez toi. Il y a la technique du furoshiki, un art japonais du nuage de tissu. Moi, j'ai utilisé la méthode de Mori. Ça marche aussi. Hein. Tu essayes de faire en sorte que ça ferme le paquet. Et voilà, et ça marche très bien.
En tout cas, la récup. De papier, de journaux, de magazines. Là, j'ai un très bel emballage panthère que je me suis permis de déchirer. Merci beaucoup, Géraldine. Et puis sinon, le tissu. Mais oui, en tout cas, la récup, évitez d'aller dépenser beaucoup d'euros dans des emballages papier cadeau qui, certes, en plus sont polluants. C'est vrai qu'en plus, on les découpe n'importe comment. On en jette à moitié à la fin. Merci pour cette astuce, ces conseils ce matin et ce cadeau. La solution conso de Géraldine à réécouter quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, 5h28, le journal, la météo approche, mais tout de suite c'est l'heure de se marrer et de sourire grâce au meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Tiens, vendredi, Arnaud nous a parlé de Jean-Pierre Fourcade, 95 ans, ancien ministre des Finances, qui propose d'utiliser l'épargne des Français pour rembourser la dette.
Oui, c'est une mesure qui s'annonce extrêmement populaire.
Oui.
Dans cette interview, il propose également de dévaluer le franc par rapport aux marques, d'instaurer un bonus écologique à l'achat des Solex, de taxer les Minitel qui sont en plein essor. L'idée, c'est donc de prendre directement les... Enfin, c'est pas de prendre directement les sous, hein, vous m'arrêtez si je dis une connerie, c'est de faire travailler cet argent en l'investissant. Mais tu peux perdre.
C'est très simple, c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est un énorme coup de massue fiscale. Sur l'argent qui roupille.
Là, on est en chronique.
Okay. Voilà,
je ferme la parenthèse.
Et on On retrouve Arnaud, Emmanuel Le Chypre aussi, vous l'entendez tout à l'heure, en direct dans Apolline Matin, 5h29, le journal et la météo dans un instant. Et puis je vous annonce la suite du programme qui va nous emmener jusqu'à 6h, à 5h40. On va retrouver toute la bande, on va revenir, tiens, sur les plus grosses punchlines de Neymar qui a accordé une interview exclusive à RMC dans Bartoli Time hier soir. Vous allez revivre tous les moments forts dans la story sport. Et puis il y a le père Morel, Anthony Morel, qui va passer nous voir avec sa hotte remplie de nouveaux joujoux high-tech. Et on poursuit notre fil rouge au 32-16 avec vous. Faut-il infliger des amendes aux parents dont les enfants sèchent trop l'école ? Depuis ce matin, le débat est vif au 32-16 autour de ce qui se passe à Narbonne. Hein, plusieurs centaines d'euros d'amendes pour des absences injustifiées des élèves. Les parents ont été condamnés. Est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce que ça va trop loin ? C'est vous qui nous le dites ce matin. On attend vos témoignages au 32-16. Et tout de suite, Géraldine, on va donc regarder la météo du jour. Le classico, soleil au sud, nuages au nord.
Oui, c'est très simple. Hein. Sur toute la moitié nord, jusqu'au Lyonnais et au nord de l'Auvergne, ça va rester gris toute la journée, alors que le soleil va s'imposer sur la moitié sud. Du coup, sur la moitié sud, comme c'est dégagé, on a quand même quelques gelées ce matin, alors qu'il fait très doux dans le nord. Cet après-midi, il fera 7 à Lyon et Grenoble, 9 à Bordeaux, 11 à Lille, à Paris, 16 à Marseille, jusqu'à 17 degrés en Corse.
RMC, Charles Matin.
5h30, bon réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC. Bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble le matin pour toute l'info en direct. C'est votre journal présenté par Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Une adolescente de 15 ans poignardée à mort par un jeune du même âge après un guet-apens sur les réseaux sociaux. C'est une information RMC. Le suspect est toujours en garde à vue près de Limoges ce matin. Mayotte dévastée, ravagée après le passage du cyclone Chido. Un pont aérien et maritime a été mis en place depuis l'île de la Réunion. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place ce matin. Et puis François Bayrou qui entame ses consultations politiques. Le nouveau Premier ministre cherche toujours à éviter une chose, la censure.
Et on commence avec cette info RMC sur la disparition d'une adolescente en Haute-Vienne.
On avait perdu la trace d'Inès depuis vendredi. Son corps a été retrouvé hier à Ille, près de Limoges. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a été violemment poignardée par un adolescent du même âge qu'elle, 15 ans, qui a avoué les faits, Pierre Bourgès, mais dont les explications sont encore très floues.
Oui, il admet aux enquêteurs avoir tendu un guet-apens à la jeune collégienne après lui avoir donné rendez-vous via l'application Snapchat vendredi. D'après la version qu'il a donnée aux enquêteurs, le jeune homme voulait lui voler son téléphone. Une version qui doit encore être confirmée par les enquêteurs, mais à laquelle la famille qui avait signalé sa disparition dès vendredi soir ne croit pas. Elle ne se laissait jamais faire, explique un proche de l'adolescente à RMC, qui décrit Inès comme une jeune femme joyeuse, très appréciée de ses amis, de ses deux grandes sœurs, et qui avait pratiqué des sports de combat. « Je ne vis plus », souffle un autre membre de sa famille qui espère connaître rapidement les raisons de cette agression.
Un mobile toujours très flou aussi dans l'affaire du quintuple meurtre qui a endeuillé ce week-end toute la région de Dunkerque. Le principal suspect qui s'est rendu samedi après son périple sanglant n'était pas connu de la police, selon une source proche du dossier. Il pourrait s'agir d'un différent professionnel entre l'homme et les trois premières victimes.
5h32 sur RMC, c'est une véritable course contre la montre qui se joue à Mayotte près de 48 heures après le passage du cyclone Chido.
Chido qui a tout dévasté sur son passage, un pont aérien et maritime a été organisé depuis l'île de la Réunion pour envoyer du matériel et des secours. Pour l'heure, le bilan est de 14 morts et 250 blessés, mais il pourrait encore s'alourdir. C'est en tout cas ce à quoi s'attend le préfet de l'archipel. Et pour cause, c'est le cyclone le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans avec des rafales de vent à plus de 220 km/h. Il ne reste quasiment plus rien des scènes de désolation que racontent ces Mahorais joints pour RMC par Marion Gauthier.
Il y a sur son téléphone ces images d'une île comme aplanie par les vents. Quelques rares bâtiments encore debout, un sol jonché de débris.
Quasiment toute Mayotte a été rasée par la tempête. Quoi. Comme si on avait largué une bombe et que voilà, même les arbres, la route, tout.
Il dit n'avoir plus la force de pleurer. Dans sa mémoire gravée, il y a ces images du cyclone.
Quand la toiture s'est envolée et que on a vu voir même des murs en béton qui tombaient par terre. Nous, on a eu des voisins qui se sont blessés. Là, ça sert à rien d'appeler le secours. Ils ne se déplacent pas parce que ils ont tellement de boulot. On sait ça en démunis, quoi.
Les routes encombrées, Abdoul les a filmées aussi. Tôles, matelas, carcasses de voitures entremêlées et familles endeuillées.
J'ai vu qu'ils étaient en train de creuser une tombe au bord de la route. J'ai vu deux enterrements aujourd'hui.
Sidéré, le jeune homme s'inquiète pour les jours à venir.
Déjà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est déjà très, très compliqué que les gens consomment de l'eau qui n'est pas bonne à boire et qui peut amener des épidémies.
L'eau et la nourriture vont manquer rapidement, insistent ces habitants qui peinent à voir le bout de l'épreuve.
Et ce matin, les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Retailleau et François Noël Buffet, se rendront sur place.
5h34 sur RMC, Emmanuel Macron a consulté, c'est désormais au tour de François Bayrou.
Le tout nouveau Premier ministre va recevoir aujourd'hui et demain toutes les forces politiques, toutes sauf la France Insoumise qui refuse de se rendre à Matignon. Et ça commence dès ce matin avec le Rassemblement National de Marine Le Pen et Jordan Bardella, tous les deux en meeting dans l'heure hier devant des militants assez inquiets, Cyprien Pézeril.
Censurer au plus vite le futur gouvernement, pour ces militants historiques du Rassemblement National, aucune hésitation.
Barnier et Bayrou, ça vaut pas plus cher l'un comme l'autre.
Pas de souplesse, mais imposer nos idées fermement, comme on a pu le faire avec Michel Barnier.
Mais avec François Bayrou à Matignon, la donne a changé. À l'heure où l'exécutif tente de nouer de nouvelles alliances, le RN risque de ne plus avoir voix au chapitre.
Je pense qu'il parlera plus aux socialistes qu'au RN.
Thierry comme Patrick craignent que leur parti ne soit plus écouté.
L'idéal, c'est d'arriver à trouver un terrain d'entente, afin que pour une fois, le gouvernement tiennent un tout petit peu plus longtemps. Mais il faut que les deux parties soient prêtes à négocier.
Un dialogue sans doute plus compliqué désormais. Pourtant, longuement à la tribune, Marine Le Pen assume son choix.
Le Rassemblement National a pris une décision qui était de censurer le gouvernement Barnier. Pour vous protéger.
Avec Jordan Bardella, ils disent peu de leur future stratégie, si ce n'est peut-être au détour d'une phrase.
Aux Français qui sont soucieux de l'incertitude politique, et je les ai entendus, je veux leur dire une chose. J'entends et je comprends vos craintes.
Comme une envie sans doute de se montrer plus conciliant, les deux leaders qui ont choisi dans leur discours, et ce n'est sans doute pas un hasard, d'épargner le nouveau Premier ministre.
Il est 5h35 sur RMC, Paris-Berlin en train, c'est désormais possible en ligne directe. La SNCF lance aujourd'hui sa toute nouvelle ligne. Jusqu'ici, il n'était possible de rejoindre la capitale allemande que par train de nuit. En revanche, de jour comme de nuit, il va falloir être patient, compter 8 heures de trajet. Autant dire que la liaison ne permettra pas forcément de détrôner l'avion, Clara Gabillet.
Il faudra une journée entière pour relier les deux capitales, un trajet direct mais relativement long. C'est un autre idéal de vie, avance la SNCF qui insiste sur l'argument écologique. En train, ce voyage émet 2 kg de CO2 par passager. En avion, c'est 200 kg. Oui, mais il n'y aura qu'un seul trajet par jour, contre 10 en avion. Difficile donc de faire changer les habitudes des voyageurs, regrette François Delettra, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport.
Pour que les gens basculent de leur voiture ou de l'avion vers le train, il faut qu'il y ait une offre importante, cadencée, plusieurs fois par jour. Quand vous n'avez qu'un train par jour, c'est forcément des occasionnels ou du loisir.
Il faudra compter 120 euros minimum pour un aller-retour en train. En avion, c'est possible pour moins de 100 euros en low cost pour un trajet de moins de 2 heures.
Et en football, Paris a mis fin à la série lyonnaise en battant l'OL 3-1. Le PSG reprend ainsi 7 points d'avance sur Marseille et Monaco.
Et puis il y aura le Quintet, Élise, aujourd'hui, 13h55 sur l'hippodrome de Cades-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Mohican. L'outsider, c'est le 11, Cristal du Seuil. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Élise Dangean. Alors oui, pour gagner, il y a le Quintet, mais il y a surtout RMC. Parce que je vous rappelle que c'est le grand Noël RMC. On a 100 000 euros de cadeaux pour vous dans toutes les émissions, toute la journée. Et le prochain gagnant, c'est peut-être vous. C'est tout à l'heure à 6h20. Et c'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Vous envoyez le mot Noël par SMS au 732-16. Noël par SMS au 732-16 et vous serez tout à l'heure avec nous pour le Grand Noël. Le sapin arrive, c'est tout à l'heure à 6h20, mais c'est dès maintenant pour vous inscrire, Noël au 732-16. Mais pour l'heure, à 5h38 et comme chaque matin, juste après le journal, on vous emmène plus loin dans l'actu, dans les coulisses de l'actualité. Ce sont les indiscrets RMC et ce matin, on retrouve Solène Leroux, notre journaliste santé. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Bonjour.
On parle ce matin des assistants médicaux, un nouveau métier créé il y a 5 ans pour soulager les déserts médicaux. Emmanuel Macron voulait en créer 10 000 d'ici la fin de cette année. Alors Solène, est-ce que l'objectif a été atteint ou pas ?
Eh bien, bel effort, mais on n'y est pas encore. Il y a actuellement près de 7400 assistants médicaux, un chiffre que vous révèle RMC ce matin. Les candidats ne manquent pas, des secrétaires médicaux qui veulent évoluer, des infirmiers en reconversion, bref, des professionnels capables de soulager les médecins des tâches administratives, mais aussi de faire une préconsultation en prenant votre tension, par exemple. Et ça fonctionne, les médecins peuvent ainsi recevoir plus de patients, en moyenne près de 20% en plus, mais parce qu'il y en a un, vous l'avez compris, on est loin de l'objectif. Plusieurs explications. On manque de financement pour ces formations, dit Sophie Bauer du syndicat des médecins libéraux. Aujourd'hui, on ne peut former que 1500 assistants par an, abonde un autre syndicaliste. L'objectif était un peu trop ambitieux par rapport à la réalité du terrain. Le terrain, justement, les locaux sont souvent trop petits et qui dit assistant médical dit bureau supplémentaire. Les objectifs de patientèle aussi fixés par la Sécu paraissent parfois inatteignables aux praticiens. Il y a encore du chemin, mais les principaux syndicats sont formels. Ce métier est une vraie plus-value. Ça a changé ma vie, assure même le docteur Patricia Lefébure de la Fédération des médecins de France. Elle a augmenté sa patientèle de 50%.
Merci beaucoup, Solène Leroux, pour ces indiscrets. À 5h39 sur RMC, vous les attendez, ils sont là. Ça y est, la bande est réunie pour attaquer cette semaine en ce lundi matin. Ma bande s'est installée autour de la table. Allez, par qui je vais commencer? Ils me regardent tous. Je vous raconte ce qui se passe dans ce studio là. Ils me suivent tous du regard en se disant est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi. On commence avec le sport, avec Antoine Salva pour la story. Salut Antoine.
Salut Charles, je vais vous parler de l'interview exclusive de Neymar dans Bartoli Time hier. Vous l'avez manqué, séance de rattrapage, le PSG, la Seleção, la Coupe du Monde 2026. Vous saurez tout.
Il y aura aussi le bonus avec toi, Géraldine.
En France, on adore les concerts. Je vous dis qui y va et combien ça coûte.
Anthony Morel s'est installé, ou plutôt le père Morel ce matin.
ça se rapproche quand même, Noël, mine de rien. On va parler jouets, mais des jouets intelligents, évidemment.
Évidemment, avec Anthony, de la tech dans un instant. Et puis, Idrissa qui veut témoigner au 32-16. Bonjour Idrissa.
Bonjour RMC, bonjour à tous.
Bonjour. Salut, Idrissa. Idrissa, qui a été éducateur spécialisé et qui veut réagir justement à ce qui se passe à Narbonne, où la justice vient d'infliger des amendes de plusieurs centaines d'euros aux familles dont les élèves étaient trop souvent absents au collège, au lycée. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut des sanctions financières, de lourdes amendes pour les parents dont les enfants sèchent trop les cours? On en débat. Le témoignage d'Idrissa, c'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Innovation Lexilens pour la dyslexie. Découvrez les premières lunettes électroniques pour les personnes dyslexiques fabriquées en France par la start-up Abeille. Elles facilitent la lecture et les apprentissages. Des milliers de personnes les utilisent déjà. L'essai de Lexilens est gratuit, sans obligation d'achat chez votre opticien Atoll. Abeille, lauréat des trophées PME-RMC. Dispositif médical CE, demandez conseil à un professionnel de santé. Plus d'informations sur lexilens.com/fr.
La distribution de cadeaux a déjà commencé dans le grand Noël RMC.
Un bon de 3000 euros chez Croisi.
Carlo, qui n'est
ne sait tenir que dans les ritournelles d'enfants.
Derrière vous, il faut le
chanson de Mickey parle de sa vie personnelle.
On puisse la recevoir.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
De gouverner durablement avec...
Bonjour, comment ça va?
Mais ça va très bien et vous? Énorme, explique Matignon, François Bayrou.
Des gens comme ça, qui ont tout le temps la... On les a...
Sens injustifié au collège, au lycée.
Un petit peu pédante et... donné pour des chocolats fondus périmés. C'est...
Parce qu'elle le mérite et qu'elle a vraiment tout.
200 000. Donc c'est 200 000 ans.
On ne sait jamais non plus quand on va se retrouver face au Covid.
Je pars, puis il y a quelques années à Rome.
Des SMS qui sont envoyés aux parents, quand il n'y a pas de réponse au-delà d'un certain nombre d'absentéisme, on envoie les courriers. Bon, il y a les parents qui répondent, bien évidemment. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre un enfant de...
Margrethe Köhl à la harpe baroque interprétait cette gaillarde du prince de Venosa de Carlo Gesualdo.
Vous écoutez Radio Classique.
La mort du fils aîné a complètement bouleversé Fabrizio, le père qui s'est empressé de trouver une épouse à Carlo. Il s'agissait de perpétuer la lignée, bien sûr. Il est de ma volonté, c'est dans son testament qu'on lit ça, il est de ma volonté que les biens des Gesualdo reviennent au chef de la famille et à ses successeurs qui descendront de mon lignage et qu'ils soient les maîtres de mes états. Ils devront se contenter de les servir et d'en avoir l'usufruit, mais que la propriété reste toujours debout et solide et inaliénable tant que durera mon susdit lignage et ses aînés mâles. Il va donc jeter son dévolu sur Maria d'Avalos, la fille de sa propre sœur, donc la cousine germaine de Carlo. Carlo n'a pas son mot à dire pour épouser cette femme qui a 4 ans de plus que lui, qui est non seulement sa cousine germaine, mais plus âgée. Ça fait quand même un lien de parenté un peu particulier. Il faut demander l'autorisation spéciale du pape. Le choix de l'épouse est motivé d'abord par sa fertilité, puisque déjà Maria a eu 2 maris qui sont morts et auxquels elle avait déjà donné satisfaction. Maria est non seulement belle, mais elle est pleine de talent. C'est un sonnet du Tasse qui nous permet de le dire. Le Tasse est très lié avec la famille d'Avalos. Puis votre beauté, avec une lumière plus grande encore, sur rendre féconde la valeur et la vertu, et faire qu'un chef invaincu, donc là on parle de Carlo Gesualdo, cède à une belle dame. Mariage, le 28 avril 1586, à San Domenico Maggiore de Naples, Maria reçoit de son mari toute une parure de bijoux. Voici ce que nous dit la chronique. Il fut offert à la jeune épouse un collier de 49 perles et une fleur de joie avec une émeraude, tous deux d'une valeur de 1600 ducats, une demi-lune de diamants avec 3 perles de la valeur de 1300 ducats. Les perles dont on parle sont ces perles baroques de l'époque, absolument phénoménales. Les époux s'installent dans le palais Sangro, donc sur la place San Domenico, tout près de l'église. Les signes de fécondité ne vont pas tarder à se manifester puisque Maria, assez vite, met au monde l'héritier mâle tant attendu, Emanuele. Gesualdo compose sous la férule de Jean de Mac, un compositeur franco-flamand, qui était proche de son père. Carlo devient en quelque sorte son propre mécène à une époque où c'est l'aristocratie et l'Église, bien sûr, qui financent la création musicale. Il n'y a pas de compositeur indépendant à l'époque. Gesualdo veut étaler ses connaissances, son art. C'est pas du tout l'attitude qu'on a d'habitude dans l'aristocratie, bien sûr, où l'on reste tout à fait discret lorsqu'on a des talents qui doivent demeurer cachés. Gesualdo en vient à rivaliser avec un certain nombre de musiciens de métier, ce qui lui donne une position absolument unique dans le paysage musical de l'époque, surtout si on le compare par exemple à son contemporain Claudio Monteverdi, qui lui dépend entièrement de la générosité des princes qui lui servent de mécène. C'est encore Catherine Deutsch qui nous dit « Toute médaille à son revers, le prince souffrait probablement aussi d'un complexe de légitimité. » Et en plus de tout ça, il y a de mauvaises rumeurs qui se mettent à circuler sur l'infidélité de son épouse. Gesualdo apprend qu'elle couche avec le séduisant Fabrizio Carafa, comte d'Andria, et donc dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 octobre 1590, il arrive avec des sbires et il fait mettre sa femme à mort, et son amant aussi, surpris tous deux en flagrant délit d'adultère. On dispose de pas mal de sources sur cet événement et chacune de ces sources apporte un éclairage différent. La plus détaillée, si l'on en croit Catherine Deutsch, c'est le rapport de l'enquête instruite par les juges de la Grand Cour du Vicariat et qui date justement de l'époque, hein, d'octobre 1590. On a toute la description des blessures sur les deux corps, ainsi que le récit de deux témoins de la scène, la femme de chambre de Maria, qui s'appelait Sylvia, et puis Bardotto, un serviteur de Carlo. Selon leur témoignage, Gesualdo était accompagné de trois serviteurs armés. Et lorsque Gesualdo eut pris les dites armes, il dit aux témoins qui tenaient les deux torches allumées dans ses mains et l'épée sous le bras, « Va, monte par cet escalier qui est l'escalier qui monte aux appartements de madame, Donna Maria d'Alvalos. » Et en montant, le dit seigneur Don Carlo dit aux témoins « Je veux aller tuer le duc d'Andria et cette traînée de Donna Maria. » Et en montant ainsi vers la porte, le témoin vit trois hommes armés qu'il ne reconnut pas d'abord car ils tournaient le dos aux témoins. Ces derniers portaient chacun une hallebarde et une arquebuse longue de trois palmes. Le septième response pour l'Office des ténèbres du samedi saint par l'ensemble Ténébrae, sous la direction de Nigel Short.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Alors, Gesualdo n'a probablement pas lui-même commis les crimes, il se serait seulement acharné, si je puis dire, sur le cadavre de sa femme. Pour certains, c'est ce qui, en quelque sorte, est le plus choquant. Et d'ailleurs, la famille Carafa, outrée que Fabrizio ait été tué par de simples sbires et non de la main de Gesualdo, va prendre l'affaire encore plus mal. Affaire qui se conclut par un non-lieu ordonné par le vice-roi, comme le précise des lignes du rapport. Le vice-roi, c'est Juan de Zuniga, je cite. Fin du rapport qui n'a pas été poursuivi sur ordre du seigneur vice-roi, étant donné la notoriété de la juste cause qui poussa Don Carlo Gesualdo, prince de Venosa, à tuer sa femme et le duc d'Andria. Bon, vous avouerez que c'est quand même pas mal. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, qu'est-ce que vous voulez. Le double crime va marquer les esprits, néanmoins, bien sûr, dans toute l'Europe. Hein. Le vice-roi essaie d'étouffer l'affaire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a d'ailleurs un rapport de l'ambassadeur vénitien à Naples en date du 19 octobre 1590, donc 2 jours seulement après le meurtre, et voilà ce qu'on peut y lire. Don Carlo, fils du prince de Venosa, monté à dessein et en surcompagnie mardi à la 6e heure de la nuit dans les appartements de Donna Maria d'Avalos, sa femme et cousine germaine, que l'on estime la plus belle dame de Naples, assassina tout d'abord le seigneur Fabrizio Carafa, duc d'Andria, qui était avec elle, et elle, par la suite, se vengeant ainsi de l'injure qui lui avait été faite. Ces trois familles de tout premier rang embrasse presque toutes les principales maisons du royaume et de cette affaire, chacun paraît assommé par la stupéfaction. L'illustrissime seigneur vice-roi a été abasourdi par la nouvelle car il aimait et estimait le duc qu'il considérait comme une personne qui, par nature et par étude, était dotée de toutes les plus belles et dignes qualités et dispositions qui peuvent se révéler chez un noble seigneur et valeureux chevalier. Voilà comment s'achève cet événement qui est devenu un mythe, bien entendu, dans l'inconscient collectif, avec la légende de Paolo et Francesca, ce couple adultérin que Dante avait immortalisé dans son enfer, vous savez. Les Carafa vont renoncer à la vengeance, dissuadés par le fait que leur ennemi se soit retranché dans une localité isolée à une centaine de kilomètres à l'est de Naples. Seulement, Gesualdo va payer le prix de ses actes en se trouvant au banc de son milieu d'origine, de cette aristocratie napolitaine. Et quand il envisage un second mariage, c'est à la cour de Ferrare qu'il est obligé de se rendre. Gesualdo le contracte ce mariage avec Éléonore d'Este en 1593, mariage qui d'ailleurs n'aura pas non plus un grand succès, même s'il ne finit pas aussi tragiquement.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
20 ans après tout ça, on est en 1611 quand Gesualdo publie ses réponses de ténèbres, il est devenu une figure archaïque dans un monde qui est déjà le monde de l'opéra à l'époque. Et sa musique est un peu, elle, dans la lignée du Stile Antico, qui suivait davantage un idéal polyphonique, rien à voir avec les nouvelles théories florentines de l'art scénique. Et Gesualdo va rester fidèle, lui, à cette polyphonie des anciens maîtres, alors que Monteverdi marque le coup d'envoi de l'opéra de style nouveau. Gesualdo est l'incarnation de ce style antique qui le conduit à son suprême degré d'achèvement, avec des harmonies invraisemblables, des choses d'une audace assez inouïe. Et il va conserver le genre et la forme ancestrale du madrigal et, ou du réponse, mais pour mieux les modifier, les pervertir, si on peut dire, avec ce langage qu'il invente lui-même. Pour reprendre la parabole de Saint Matthieu, il verse le vin nouveau dans les vieilles outres, n'est-ce pas ? Gesualdo demeure, même dans ce cadre ainsi réévalué, l'exemple d'un musicien au langage fortement singulier, nous dit Renaud Machard, doté d'une rhétorique propre et au vocabulaire en infraction avec le code traditionnel. Ce théâtre des voix semble agir selon le code personnalisé d'une rhétorique au masochisme subtil. D'ailleurs, Gesualdo se fait flageller quotidiennement par des adolescents qu'il entretient à cet usage. Oui, c'est quand même un drôle de monde qui est celui de ce compositeur qui ne reste pas lié aux contingences liturgiques. Il a sa propre chapelle. Il est tentant d'analyser les textes sacrés qu'il met en polyphonie comme un peu le reflet de ce qu'il y a au fond de lui, une nécessité intérieure, un désir de rédemption, de se faire absoudre du péché que tout le monde connaît. Ce texte de la Passion avec l'arrestation, le jugement, le chemin de croix, la crucifixion et la mort porte à son sommet l'identification du compositeur au Christ. C'est une musique dont on doit pouvoir dire qu'elle est écorchée vive, et c'est peut-être ça qui fascine aussi la postérité. En témoigne notamment le Momentum pro Gesualdo de Stravinsky, qui a été créé en 1960 à la Fenice de Venise, une œuvre qui marque le début d'un enthousiasme croissant pour la musique de ce personnage absolument inclassable, vous l'aurez compris, pour la musique du prince Carlo Gesualdo, compositeur et assassin.
Vous écoutez Radio Classique.
Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 16 décembre. Soyez les bienvenus dans la matinale de l'économie. Un cadeau de bienvenue dont François Bayrou se serait sans doute bien passé. Quelques heures seulement après sa nomination au poste de Premier ministre, l'agence de notation Moody's a dégradé la note de crédit attribuée à la France. Elle est passée de double A2 avec perspective négative à double A3 avec perspective neutre. Moody's s'inquiète de la capacité de la France à assainir sa situation budgétaire en raison bien sûr de l'instabilité et de la fragmentation du paysage politique. On en parlera dans le journal de l'économie avec Wilfried Galland. Et puis on parlera de la multiplication des cyberattaques et des fuites de données personnelles. Elles se multiplient ces derniers mois. Pour quelles raisons? Est-ce que l'intelligence artificielle y est pour quelque chose? Nous poserons la question à la présidente de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, Marie-Laure Denis, qui sera l'invitée des Voix de l'économie.
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à vos projets d'expatriation.
Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Attention aux brumes et brouillards ce matin.
Ils sont présents en plaine, sur la moitié nord, sur tous les massifs montagneux. C'est le soleil qui s'impose, comme au bord de la Méditerranée. Soleil qui s'étend à toute la moitié sud dans l'après-midi. C'est dans le sud qui fait